Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'était il y a presque 9 ans, le 15 avril 2015. Un des moments les plus forts de cette émission, nous recevions Maryse Condé, une femme gourmande. Gourmande de découvertes littéraires, humaines et gastronomiques. Elle venait alors nous parler de son livre « Mets et merveilles ». Une femme libre, humaniste, érudite, une modestie non feinte, une écrivaine passionnée d'Afrique, une éternelle voyageuse en quête perpétuelle d'identité. Maryse Condé a quitté ce monde la nuit dernière, mais sa voix résonnera encore longtemps, par exemple lorsqu'elle parlait de la négritude, concept défendu par un autre Guadeloupéen, Aimé Césaire, et avec lequel elle avait pris ses distances.
Je crois que la négritude nous a fait croire que tous les Noirs étaient pareils. Une peau noire était une sorte de facteur commun qui liait tous les gens et qui les faisait un peu pareils les uns aux autres. Je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. D'abord, les Africains ne m'ont jamais accepté. Les Africains américains, quand j'étais en Amérique, ils lisaient mes livres avec intérêt, mais toujours comme une voix venue d'ailleurs. J'ai jamais été considérée comme une à part entière. Ma mère n'a pas connu ce que Rosa Parks a connu, par exemple, s'asseoir à l'arrière d'un bus pour laisser le passant blanc. Et je crois que si on n'a pas partagé dans le passé un certain nombre d'expériences, on n'est pas pareil. Donc finalement, j'ai appris en Amérique que le mot d'écriture d'être pris très, très, très légèrement et que finalement, peut-être, la couleur n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'individu profond.
Maryse Condé, c'était une trentaine de livres. Elle n'aura jamais eu le prix Nobel que beaucoup lui promettaient. C'était aussi une grande voyageuse. Elle a notamment vécu en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Sénégal avant de s'installer aux États-Unis. Et ensuite, en 2013, dans le sud-est de la France, c'est là qu'elle s'est éteinte la nuit dernière. On aura évidemment l'occasion à nouveau d'évoquer son œuvre et sa personnalité. Dans VMDN, les mots, disait-elle, sont des empêcheurs de penser en rond. Ils jouent, ils font l'amour, ils composent une musique. C'est l'anniversaire d'une vraie star internationale que nous allons à présent fêter aujourd'hui. Elle est née en Belgique en 1954. Elle a donc 70 ans, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne les fait pas. Elle n'a même pas pris une ride, car elle est l'incarnation de la jeunesse. Mais en 70 ans, elle en a fait des choses. Elle est allée à la ferme, à la mer, au cirque, en avion, au parc, à l'hôpital, et tout récemment à Paris. Elle a fait les courses, la cuisine et du camping. Elle est montée à cheval et en montgolfière. Elle a pris le train, l'avion, le bateau, s'est occupée du petit moineau, des chatons et du petit âne. Sans oublier de jardiner, de découvrir la musique ou encore de protéger la nature. Bon anniversaire à Martine, héroïne d'albums illustrés, vendue à plus de 120 millions d'exemplaires en langue française à raison d'un album par an et à 50 millions en langues étrangères. Et vous m'en direz des nouvelles. Et avec nous, trois invités pour ce goûter d'anniversaire. Bonjour Laurence Boudard.
Bonjour.
Vous publiez chez Casterman non pas un album de Martine, mais un album intitulé « Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône », un ouvrage illustré avec beaucoup d'archives, des photos d'époque et surtout des dessins de Marcel Marlier, avec surtout une foule de détails sur la naissance du personnage, sur l'aventure de Martine et des auteurs jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un objet hybride hein, qui tient à la fois donc, de l'album illustré, du livre de fan et de l'encyclopédie. Vous êtes une lectrice de la première heure de Martine ?
Oui, si on peut considérer qu'à 7 ans, on est une lectrice de la première heure. Oui, je l'étais, oui.
Votre premier album, c'était lequel ? Vous en souvenez ?
Martine apprend à nager.
Voilà, et qu'est-ce qui d'emblée vous a accroché dans cet album ?
Je crois que les dessins, déjà. Les dessins captent le regard et puis séduisent. Et puis on a envie de les lire et de les relire, ces albums. Et puis je crois que je voulais être comme Martine. Je voulais faire comme elle et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est le premier album qui m'a marqué puisque moi-même, à ce même âge, j'apprenais à nager, donc j'imitais Martine.
Avec nous également en studio, Rosaline Elan Goldsmith, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine pour la jeunesse, traductrice, vous avez fait une thèse de doctorat, vous êtes penchée à cette occasion sur l'adaptation des classiques de la littérature pour la jeunesse et vous êtes l'autrice des quatre derniers albums de Martine, Martine au Louvre, Martine au Château de Versailles, Martine en Bretagne, paru respectivement en 2021, 2022, 2023 et vient de paraître le quatrième, Martine à Paris. Vous aussi, vous êtes une ancienne lectrice ?
Oui, tout à fait, moi aussi, j'ai grandi avec Martine.
Premier album là encore,
qu'est-ce Alors moi, c'était Martine Petyrat de l'Opéra.
Qui ah a oui, c'est l'un, des, c'est l'un de ceux qui a reçu le meilleur accueil. Hein,
voilà, c'est ça, il est très connu.
En ligne également avec nous, Maud Van Coppenolle, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne de Belgique. Vous êtes responsable du centre Marcel Marlier qui se trouve à Moucron. On est vraiment très près de la frontière française et de la ville de Tourcoing. C'est un centre installé dans le Château des Comtes dont la devise est « Dessine-moi Martine » et qui est donc dédié à Marcel Marlier. Même question, votre album préféré de Martine ?
Alors moi, sans aucun doute, c'est « Martine fait du théâtre ». Et j'ai notamment en tête cette image où elle rentre dans le grenier, où elle trouve ce coffre rempli de déguisements et elle fouille avec tous ses copains. Ça m'a vraiment marqué à vie.
Alors le premier album de Martine, Laurence Boudard, c'est Martine à la ferme. Il a été publié donc il y a 70 ans, en 1954, chez Casterman. Évidemment, alors dans votre livre, vous prenez un peu le temps d'expliquer le contexte. Hein. Le procédé offset qui permet d'imprimer à gros tirage s'est répandu. On est en pleine période de baby-boom, donc il y a beaucoup d'enfants en Europe. Et un an auparavant, en 1953, Casterman lance une nouvelle collection justement destinée aux enfants de 5 à 8 ans, la collection Farandole. L'idée, c'est d'inciter les enfants à la lecture, c'est de les accompagner dans l'apprentissage ?
Absolument, c'est de leur offrir un produit éditorial, un produit littéraire qui leur parle directement, qui s'adresse directement à eux. Et puis effectivement, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes lecteurs dans ce début des années 50. Et donc, il y a un véritable marché qui intéresse le monde de l'édition et Casterman en particulier.
Et donc, cette collection Farandole, elle est déjà basée sur le même type d'écriture, quoi, le texte et l'illustration.
C'est ça, c'est le même principe, sauf que ce sont essentiellement des albums animaliers. Donc ce sont les animaux qui sont les héros des histoires, des premières histoires de cette collection.
Et Marcel Marlier, Maud Van Coppenolle, travaille à ce moment-là déjà pour cette collection Farandole ?
Alors oui, il a travaillé pour la collection Farandole et c'est d'ailleurs sa première collaboration avec Gilbert Delahaye qui est le co-auteur de la série Martine.
Oui, il avait illustré plusieurs récits et il aimait bien d'ailleurs, je crois, dessiner les animaux.
Oui, alors sa caractéristique, c'est cette façon d'humaniser les animaux et de leur donner des sentiments vraiment comme les humains.
Oui, il dessinait aussi des motifs religieux, puisque c'est évidemment une époque où les éditions en Belgique étaient fortement influencées par le catholicisme.
Oui, donc Marcel Marlier a travaillé pour le catéchisme de Belgique et il a réalisé tout un tas d'ouvrages pour la procure de Namur.
Alors voilà pour les dessins et pour les textes, Laurence Boudard. Donc Casterman pense à Gilbert Delahaye, correcteur hein, pour Casterman, comme Maud Van Coppenolle vient de nous le rappeler, mais qui était aussi poète. C'était quelqu'un qui avait déjà un passé d'écrivain.
Oui, absolument. Il avait déjà publié plusieurs plaquettes et il était très actif dans le milieu poétique de la ville de Tournai. Donc c'est pour cela, je pense en tout cas que Casterman pense à lui directement pour lui confier cette commande. En fait, il lui demande d'imaginer un personnage féminin. Ça, c'est vraiment la consigne, puisque Casterman pense qu'il y a sans doute un segment à atteindre qui sont a priori et en priorité les jeunes lectrices, puisqu'il y a beaucoup de héros masculins, ou en tout cas, voilà, on pense spontanément que ce sont davantage les petits garçons qui vont s'intéresser à ces héros-là, mais il n'y a pas de petites filles. Et donc, c'est comme ça que commence l'aventure.
Donc, les textes étaient pensés pour des lecteurs débutants, pour être lus à haute voix ou pour être lus par les enfants eux-mêmes ou par leurs parents ?
Alors, a priori, au départ, c'est pour les lecteurs débutants, oui, effectivement, avec cette aide, justement, des images. Hein. Les images viennent en soutien du texte.
Mais lus à haute voix, parce qu'en général, quand on apprend à lire, c'est plutôt à haute voix au début.
Oui, on annonce un petit peu.
La lecture silencieuse arrive après.
Ouais, voilà, en effet.
Et donc, les textes ont d'abord été écrits séparément. Et ensuite, il y a eu le travail d'illustration, ça s'est passé dans les deux sens ?
Alors, non, ça c'est... Au départ, il y a eu le texte, et le texte était donc écrit par Delahaye et confié à Marlier, qui recevait la responsabilité de produire les dessins. Et donc, au départ, il semblerait que les deux hommes n'aient même pas discuté des projets. C'est seulement plus tard, quand le succès sans doute aidant, que la collaboration s'est vraiment fait effective entre deux.
Alors, Rosaline et Langle Smith, vous signez donc les textes des quatre derniers albums de Martine. Est-ce que quand vous les avez rédigés, vous avez pensé justement au côté oral de la lecture, la dimension un papa ou une maman ou un oncle hein, ou un parrain, que sais-je, qui partage effectivement une histoire avec une petite fille ou un petit garçon ?
Oui, tout à fait, c'est important. Un album, c'est un livre voilà, que l'enfant lit, mais accompagné, qu'on va lui lire d'abord, alors souvent voilà, à l'occasion d'une lecture du soir, par exemple, mais dans lequel ensuite il va avoir envie de se replonger seul, qu'il va parcourir, alors selon son âge, parce qu'il va parcourir les images, mais parfois aussi parce qu'en effet, il s'intéresse un peu au texte et aux mots, il va essayer aussi de retrouver les mots. Donc c'est important, cette dimension orale.
Et je crois que vous avez travaillé sur d'anciens albums pour, on va dire, dépoussiérer un petit peu le style, on peut dire ça comme ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que Martine, en fait, on s'est aperçu que le lectorat avait rajeuni et qu'aujourd'hui, la cible de Martine, c'est quand même plutôt des enfants, donc non lecteurs. Et avant l'âge de la lecture, par conséquent, il a fallu adapter un petit peu quand même le volume des textes, en particulier à cette cible-là.
Quand vous dites enfants non lecteurs, ça veut dire quoi?
En fait, c'est avant 7 ans. C'est-à-dire avant, on va dire qu'aujourd'hui, c'est, je dirais, jusqu'à 6-7 ans, en fait, les lecteurs de Martine. Et on s'est aperçu que les albums, quand ils étaient trop longs, ne pouvaient pas être lus en une seule fois aux enfants. Et quand on découpe, en fait, une lecture du soir sur plusieurs soirs, ça pose un peu un problème parce que les enfants aiment bien avoir le début, le milieu et la fin de l'histoire à l'occasion de cette lecture de la part d'un parent, par exemple. Et donc, en raccourcissant les textes, ça permettait de faire tenir notamment une histoire en une soirée, en une lecture du soir, et de simplifier aussi un petit peu pour rendre plus accessible le vocabulaire, tout simplement.
Et ce sont des lecteurs ou des lectrices aujourd'hui ?
Alors, je pense que on a beaucoup de lectrices, mais en réalité, moi, je m'aperçois en parlant autour de moi, simplement de Martine, que Martine a touché vraiment tous les foyers, tous les milieux, et aussi bien des filles que des garçons.
Oui, vous confirmez, Laurence Boudeur, quand vous étiez à l'école, dans votre entourage, vos copains, vos camarades de classe garçons, ils lisaient aussi Martine ?
Bien sûr, ils lisaient Martine. Je crois que tout le monde lisait Martine. Il y a même un monsieur qui m'a confié qu'il lisait Martine en secret. Il ne voulait pas le dire aux copains, mais lui, il adorait.
Ça faisait honte alors.
Oui, mais lui, il adorait.
C'était censé être un album de filles.
Il allait quand même voir et visiblement, il y prenait goût.
Bon, alors, question. Alors, je ne sais pas si. Je n'ai pas trouvé la réponse, mais peut-être que vous l'avez. Pourquoi Martine s'appelle Martine, Laurence Boudard ?
Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Martine. Par contre, ce que je sais, c'est que c'était un prénom qui était extrêmement donné aux petites filles qui ont l'âge de Martine aujourd'hui.
Prénom générationnel, parce qu'on pourrait penser que ce sont les albums qui ont donné envie ou l'idée aux parents d'appeler leur progéniture comme ça. En fait,
ça marche dans les deux sens, je pense. Dans les deux sens. Alors, au départ, on avait imaginé, enfin, Gilbert Delahaye avait imaginé l'appeler Claudine, et puis après, ils ont changé pour Martine.
Claudine, ça faisait un peu Claudine à l'école et Colette
Peut-être qu'il y a peut-être que Delahaye avait Colette dans le fond de sa tête et c'est peut-être pour ça qu'il avait d'abord pensé à ce prénom-là. Mais en tout cas, Martine était vraiment un prénom qui était très populaire, très largement répandu dans les années 50, ce qui permettait une plus grande identification aussi des lecteurs avec le personnage.
Quand Martine apparaît pour la première fois donc dans Martine à la ferme, quel âge a-t-elle, Laurence Boudard ? C'est pas indiqué très clairement.
Alors, c'est pas indiqué très clairement.
C'est volontaire.
Oui, je pense que c'est volontaire. En tout cas, moi, je dirais qu'elle a 6 ans peut-être plutôt, dans le premier album. Et puis après, les suivants, on va voir son âge se modifier légèrement d'un album à un autre, pas de manière linéaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas grandir au fil des albums, mais que son âge va varier un peu en fonction des histoires, dans un intervalle qui va de 6 ans à 10-11 ans, parce que dans les derniers, elle a plus 11 ans.
Et graphiquement parlant, Maud Van Coppenol, est-ce que l'on sait si Marcel Marlier s'est basé sur une petite fille en chair et en os pour dessiner Martine ?
Alors en réalité, c'était une petite fille qui habitait dans la même rue que lui à Herzo, donc dans son quartier d'enfance. Il l'a trouvée mignonne, il avait un petit peu le béguin pour elle. Et voilà, ça a été la première Martine. Alors, il prenait plusieurs modèles, c'est-à-dire que tous les 5-6 ans, il était obligé de changer de modèle parce que la jeune fille grandissait. Et alors, ça explique aussi pourquoi, selon les albums, elle a tantôt les cheveux longs, tantôt les cheveux courts, les yeux bleus, les yeux verts. C'est simplement parce que c'était une autre petite fille qui servait de modèle. Donc, en réalité, il y a eu plusieurs Martines.
Alors justement, en fait, vous avez répondu en partie à la question que j'allais vous poser. Imaginez un instant, Maud Van Coppenol, que vous parlez à quelqu'un qui n'a jamais vu d'album de Martine de sa vie. Comment est-ce que vous pourriez nous la décrire physiquement ?
Alors ça, c'est la grande particularité de Martine, c'est finalement une des seules héroïnes qu'on peut reconnaître alors qu'elle est habillée différemment, qu'elle a une autre coupe de cheveux. Habituellement, les personnages, prenons Tintin par exemple, il est toujours habillé pareil. Donc ici, pour Martine, alors certes, elle a un petit look très conventionnel qui revient à chaque fois, mais pourtant, sa garde-robe change. Donc ça, c'est vraiment difficile finalement de décrire une seule Martine, parce que Martine, c'est plein de facettes différentes. Mais si je devais dire un point commun, je dirais qu'elle est brune, de corpulence moyenne, de taille moyenne. Donc finalement, un enfant relativement commun pour qu'un maximum d'enfants puissent s'y identifier.
Alors, elle est évidemment sur la couverture de votre livre, Laurence Boudard, avec dans les bras son petit chien, le teckel Patapouf. Décrivez-nous votre Martine à vous. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette représentation-là, puisque vous aviez un peu l'embarras du choix?
Oui, mais je trouve que c'est un dessin où elle est particulièrement lumineuse, souriante, et elle a l'air bien dans sa peau, en fait.
Elle regarde
le monde, voilà, avec à la fois un petit air rêveur et en même temps bien là, bien dans son monde.
Oui, et Patapouf, c'était indispensable qu'il l'accompagne la couverture.
Patapouf, c'est quand même le compagnon extrêmement fidèle de Martine, qui l'accompagne dans absolument toutes ses aventures, qui la suit, qui la regarde toujours avec un regard bienveillant, qui résume en fait peut-être aussi finalement tout l'entourage de Martine, un entourage à la fois qui l'accompagne, mais qui ne prend pas l'ascendant sur elle, et qui est très bienveillant.
Oui, et qui, sur la couverture du livre, regarde le lecteur avec, je trouve, des yeux particulièrement complices. There's a place in your heart. I know that it is love, and this place be much brighter than tomorrow.
And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living.
Make a better place.
It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel.
Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. So make a better world. Make a better world.
In the World, Kids United featuring Corneille, et qui chante Michael Jackson dans VMDN sur RFI. Si on a choisi d'évoquer Michael Jackson dans cette émission, c'est pas un hasard. Laurence Boudard, vous nous expliquez pourquoi ?
Oui, ben parce que Michael Jackson était un grand fan de Martine, et en particulier un grand fan des dessins de Marcel Marlier, puisqu'il était tombé un peu par hasard sur un dessin reproduit sur une boîte de puzzle, puisque beaucoup de dessins de Martine ont servi pour des puzzles. Et visiblement, il est tombé en amour, en passion complète pour ce dessin. Il a voulu rencontrer le dessinateur, il a rencontré Marcel Marlier, ils se sont rencontrés à Paris, et il voulait absolument le voir, le rencontrer, le toucher même, et acheter certains de ses dessins.
Et Marcel Marlier ?
Eh bien, il a refusé.
Il a refusé, c'est extraordinaire. Il a expliqué, chez nos confrères de RTL, que ses enfants s'y étaient opposés.
Bah, Peut-être, s'il l'a dit, on va le croire. En tout cas, ce que je sais, ce qui est aussi assez incroyable et qui raconte beaucoup du personnage, de qui était Marcel Marlier, il ne savait pas au départ qui était Michael Jackson. Quand il a eu le premier contact avec l'impresario, il a dû demander à ses enfants, justement, qui était ce fameux Michael Jackson. Et puis il semblerait, là aussi c'est un récit que je tiens de la famille Marlier, que Michael Jackson aurait voulu que Marcel Marlier dessine pour lui, dessine des histoires qu'il aurait imaginées, que Michael Jackson aurait imaginées. Mais pour cela, il aurait fallu que Marcel Marlier se rende aux États-Unis, ce qu'il a refusé là aussi, préférant continuer à s'occuper de Martine chez lui, bien calmement, dans sa maison.
Voilà, en Belgique. Alors on va l'entendre, Marcel Marlier, extrait d'un documentaire que vous citez dans votre livre, Laurence Boudard, un documentaire de Laurence Bibot, qui est une comédienne belge, ce documentaire est intitulé « I love Martine », diffusé en 1999. Marcel Marlier racontait alors que l'un de ses voisins lui avait transmis le virus de la peinture.
J'avais près de chez moi un monsieur qui était peintre ornementaliste, mais qui était vraiment un amateur dans l'âme, un amateur de peinture. Et tous les week-ends, le samedi, le dimanche, ce monsieur passait et on partait en bicyclette par Mons et par Vaux pour découvrir des paysages. De chez moi, j'étais assis sur le seuil de la porte, et au loin, là-bas, il y a un passage à niveau dans la rue, donc c'est beaucoup plus haut, et j'attendais fébrilement de voir sa silhouette, là. Avec son imperméable, là. Ah, je disais, ça y est, il est là. Ou alors je me trompais, je croyais que c'était lui, c'était pas lui, j'étais déçu. J'avais la journée était fichue. Vous voyez, ce que l'importance pour un gosse de rencontrer ce monsieur-là. On plantait le chevalet, je me mettais toujours un peu derrière lui, pour un peu lorgner ce qu'il faisait. Et un peu à la fois, je comprenais la poésie, tout à coup, du personnage, du paysage.
Oui.
Le paysage qu'il réalisait était, cependant, identique au paysage que je voyais, mais il était tout à coup transfiguré et beaucoup plus poétique. Maintenant, il y avait là une alchimie que je ne comprenais pas bien.
Hein? Et que vous avez compris plus tard
Je ne sais pas si j'ai vraiment compris. Vous savez,
C'est ce que vous faites quand même dans les Martines, vous transfigurez la réalité.
Oui, mais enfin, c'est involontaire. Ça n'est pas calculé.
La modestie de Marcel Marlier dans ce documentaire donc de Laurence Bibot, comédienne, réalisatrice et qui, pour la petite histoire, n'est autre que la mère de la chanteuse Angèle et du rappeur Romeo Elvis. D'ailleurs, à la fin du film documentaire, on entend la toute petite Angèle pousser la chansonnette en l'honneur de Martine. Si ça vous intéresse, c'est disponible en ligne. Alors, Maud Van Coppenolle, Marcel Marlier, c'était pas un autodidacte quand même, parce que là, on a l'impression que c'est un peintre du dimanche qui regardait son voisin s'exécuter. Il a fait une école d'art très réputée en Belgique.
Oui, absolument, l'Institut Saint-Luc, et il est revenu après sur les bancs de l'école en tant qu'enseignant.
Donc il a appris très sérieusement le dessin, la peinture, l'histoire de l'art, ce sont vraiment des études longues, quoi. Il a appris à dessiner, à composer et à s'inspirer aussi d'œuvres existantes.
Oui, d'ailleurs c'était un miracle pour lui d'avoir pu s'inscrire à l'Institut Saint-Luc, parce qu'au départ ses parents étaient tout à fait contre, donc ils trouvaient que c'était pas une bonne chose de dédier, de faire carrière dans le monde de l'art, parce qu'on gagne pas le son pain. Mais grâce au curé du village et au professeur de son école primaire, ils ont convaincu ses parents de pouvoir s'inscrire à l'Institut Saint-Luc, et heureusement.
Alors vous êtes, Maud Van Coppenolle, la responsable du centre Marcel Marlier de Moucron, dont le slogan, je le disais tout à l'heure, est « Dessine-moi Martine ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'alchimie, pour reprendre le mot qu'on vient d'entendre dans l'extrait du documentaire, la technique picturale de Marcel Marlier ?
Alors, il est toujours dans un dessin très précis, très détaillé, qu'on peut presque confondre avec de la photographie.
C'est comme ça, d'ailleurs amateur de photos, hein.
Oui, et il a même inventé une technique de photo stéréo. Donc en fait, à un certain moment de sa carrière, il était tellement débordé de travail que pour gagner du temps, il dessinait directement sur des photos. C'est le cas dans quelques albums d'une autre série qu'il a réalisée qui s'appelle Jean-Louis et Sophie. Et c'est impossible de faire la distinction entre la photo et le dessin.
Donc dessin extrêmement réaliste. Quelle technique utilisait-il pour les Martines ?
Oh, il a tout expérimenté, jusqu'à la palette graphique, même avec l'ordinateur. Il a travaillé avec l'aquarelle, le pastel, la gouache, vraiment toutes sortes de techniques.
Donc beaucoup de...
Des périodes.
Voilà, donc des illustrations, des décors, des personnages à la fois réalistes et plein de détails. On peut dire que c'était un perfectionniste, un maniaque du détail.
Un workaholic, comme on explique dans notre visite. D'ailleurs, ses enfants lui ont souvent reproché d'être tout le temps occupé de travailler au détriment de sa famille, mais il était comme ça.
Oui, Laurence Boudard, vous avez été, je crois, particulièrement marquée par Martine en avion et le dessin du cockpit. Et c'est vrai que c'est dans le livre, hein, on voit effectivement un vrai cockpit et le dessin. C'est vrai que c'est assez extraordinaire dans un livre pour enfants d'avoir quelque chose d'aussi précis.
Oui, c'est complètement bluffant de voir à quel point il y avait ce souci du détail et ce souci aussi de représenter la réalité, en fait. D'être vraiment dans un souci d'hyper-réalisme qui, je pense, aussi a contribué à asseoir aussi dans la longévité le personnage de Martine et ses aventures, parce que les enfants, finalement, qui lisent ou qui observent les dessins des albums sont renvoyés à leur propre réalité, à le propre univers qu'ils côtoient tous les jours. Et ça a fortement, d'après moi, aidé à assurer cette pérennité du personnage, comme je disais.
Oui, d'ailleurs, aussi expressivité dans les personnages, hein, aussi avec un travail très précis, en particulier sur papier calque. Ça, c'est très pratique, hein, quand on est dessinateur, d'utiliser un calque. Ça permet évidemment de varier les différentes attitudes, les différentes postures et l'expressivité des traits du visage. Il demandait aussi, parce que je vous ai lu, hein, Laurence Boudard à ses enfants de prendre la pause. Et puis aussi, il faisait des immersions. Alors, par exemple, Rosaline Langosmith disait tout à l'heure que son album préféré, c'était Martine Petira de l'opéra. Il a fait une immersion à l'opéra pour étudier les enfants.
Absolument, oui, il est allé plusieurs séances à l'opéra à Bruxelles, hein, puisqu'il était belge, vous l'avez rappelé, donc à l'opéra royal de la Monnaie. Et c'est à l'époque où, en fait, il y a les ballets de Béjart qui sont à l'affiche. Et donc, il a assisté à de nombreuses répétitions, toujours avec ce souci d'être au plus près et des mouvements du corps et de la réalité de cet environnement particulier, dans ce cas-ci, qui était celui d'un ballet.
Oui, ça, c'est toujours intéressant de le rappeler, Rosaline Langosmith, vous qui écrivez aussi pour la jeunesse, hein, de la littérature cette fois-ci, que la littérature jeunesse ou les albums jeunesse, ce n'est pas de la sous-littérature, quoi. C'est-à-dire que les écrivains, les dessinateurs font un vrai travail de fond et que, voilà, il s'agit aussi de respecter son lectorat, qui est peut-être d'ailleurs plus exigeant encore que l'électorat adulte.
Oui, il me semble. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un enfant ne se reliera à un livre que si la fiction le prend complètement. C'est vraiment ce qu'on appelle l'adhésion pleine à la fiction. Un enfant ne va pas s'émerveiller du style, d'une certaine érudition, du geste littéraire. Soit le livre lui plaît, c'est vraiment le plaisir de la lecture, ou bien il repose le livre.
Oui, il y a un côté très binaire, quoi. On aime, on n'aime pas, on s'y plonge ou on le rejette.
Voilà, et donc c'est une écriture qu'il faut essayer de rendre, une écriture un peu quintessentielle. Disons, moi, quand j'écris, je vais essayer d'être le plus simple possible, avec des images qui parlent aux enfants, de ne pas partir dans des élucubrations, dans des périphrases, dans des choses trop compliquées. Sinon, encore une fois, on perd le lecteur.
Alors, le premier album de la série, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est Martine à la ferme. Sur la couverture, elle apparaît avec un chemisier au col boutonné, avec un fichu, une jupe rouge à pois blanc, un pied nu et l'autre chaussée d'un sabot. Elle est assise sur un tas de foin avec plein de petits lapins autour d'elle. Ça veut dire que Martine serait une citadine, une fille de la ville, Laurence Boudard?
C'est une très bonne question. C'est pas très clair. En fait, elle n'est pas citadine. On pourrait dire, l'impression que l'on a quand on étudie la série dans son ensemble, c'est qu'elle habite à proximité des villes, pas tout à fait dans la campagne, mais dans sans doute une sorte de gros bourg.
Une sorte de pavillon de banlieue, mais,
oui,
mais sans les grands ensembles.
Mais pavillon des années 50, donc il n'y avait pas encore vraiment de cité pavillonnaire dans les années 50, enfin en tout cas pas en Belgique et pas dans la région de Marcel Marlier. Je dirais plutôt ces zones hybrides qui ne sont pas tout à fait la ville, mais qui ne sont pas la campagne la plus reculée non plus.
Et tout au long, finalement, de son existence, elle est devenue de plus en plus urbaine.
Elle continue à évoluer dans ce milieu un peu intermédiaire, en effet. Il y a un album où elle déménage à la ville. Donc là,
1992,
c'est bien la preuve,
voilà. On est quand même au début des années 90.
Oui, hein. Oui. Donc là, c'est bien la preuve qu'elle n'habite pas la ville puisqu'elle y déménage et que voilà, ça va supposer pour elle, et c'est ce que l'album raconte, toute une série de changements aussi dans son mode de vie.
Mais après l'album, est-ce qu'elle a changé d'habitat? Elle a changé
de
copain?
Non, elle
pas
revient.
Du tout.
Donc, non, parce que
chaque
histoire,
album est vraiment très séparé des
exactement,
les uns des autres.
Donc chaque histoire est vraiment, enfin chaque album est vraiment circonscrit à une histoire, à une aventure dans un milieu, dans une expérience bien déterminée et bien cadrée. Et donc on n'est pas du tout avec une suite, avec des histoires qui se prolongent. Il ne faut pas avoir lu les Martine dans l'ordre pour comprendre. On peut tout à fait se balader à l'intérieur de l'ensemble de la série sans forcément les lire de manière linéaire.
Mais alors justement, Rosalind et Langell Smith, vous avez, j'imagine, une vision d'ensemble de la série des Martine aussi, vous. Est-ce que Martine évolue au rythme et au diapason de la société?
Oui, certainement, oui, tout à fait. Elle est le reflet, en fait, de la société au moment où paraît l'album, où paraît chaque album. Donc, elle évolue au miroir de la société, ce que montre très bien Laurence Boudard, d'ailleurs, dans son livre. Par conséquent, Martine, dans les années 50, à la fin des années 50, c'est une petite fille de cette époque-là. Et dans les derniers albums qu'a illustré Marcel Marlier, donc en fait en 2010, elle est aussi une petite fille des années 2000.
Donc ça veut dire que si on vous met entre les mains, mesdames, un album sans vous dire l'année de parution, on peut à peu près deviner, alors à condition d'être un peu adulte et d'avoir quelques notions d'histoire, mais la période de parution, Laurence
Boudard. Oui, parce que en fonction soit de l'activité qu'elle réalise à ce moment-là, la manière dont elle est habillée, peut-être même aussi la manière dont elle se comporte, en fait, dont elle se positionne, même physiquement, on peut effectivement les dater assez clairement.
Alors, ce qui ne change pas, c'est son caractère, sa personnalité, donc insouciante, sa joie de vivre, sa curiosité, son enthousiasme. Ça, c'est vraiment le cahier des charges donné aux auteurs. Vous avez dû forcément le respecter vous-même, Rosalind.
Oui, tout à fait. Voilà, absolument. Il faut que Martine, elle reste cette petite fille qui est à la fois curieuse, pour qui l'intérêt pour apprendre, vivre des choses nouvelles avec enthousiasme, en étant libre, demeure effectivement dans les albums d'aujourd'hui.
Et donc notamment dans ceux dont vous signez les textes, on en parle dans un instant.
Tu l'as vu à Barcelone, comme le machin mal fonctionne. Tu l'as vu aussi par ici, comme le truc est mal construit. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas? Tu l'as vu au téléphone, ne plaire à presque personne. Tu l'as vu dans le quartier, tout le monde fait semblant d'aimer. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas? Assez, 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 pas assez, 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 qu'il y en a assez, assez, pas assez, assez. Tu l'as vu dans les Antilles, leur machiner les chevilles. Dans le Paris, faire machiner les plus gentils. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas? Tu l'as vu sur ta figure, les marques de la fatigure. Tu l'as vu un peu partout, la machine entrée en nous. Oh, dis-le-moi, on en fait quoi de ça? Oh, dis-le-moi, on le répare ou pas?
Joyeux.
répare ou pas les Belges de Sage comme des sauvages dans la playlist RFI de ce mois d'avril et dans VMDN qui fête les 70 ans de Martine avec Laurence Boudard qui publie Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône chez Casterman, l'éditeur historique de la série. Avec nous également Maud Van Coppenol, responsable du centre Marcel Marlier de Moucron en Belgique, et Rosaline Elan Goldsmith qui a donc écrit les textes du tout nouveau, du tout nouvel album de Martine intitulé Martine à Paris qui vient de sortir toujours chez Casterman, plus les trois albums immédiatement précédents. Alors c'est étonnant parce que sur la couverture, il n'y a pas votre nom, Rosaline Elan Goldsmith, il y a Gilbert Delahaye, donc le créateur des textes, Marcel Marlier, le créateur des illustrations, et le vôtre, il faut regarder les crédits, c'est écrit tout petit hein, quand on vous pouvez nous expliquer.
Ben, je n'ai pas créé Martine.
Non, c'est clair.
Voilà, donc les créateurs de Martine sont en couverture et mon nom apparaît à l'intérieur de l'album, effectivement.
Comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure ?
Alors moi j'étais déjà donc, dans le monde de l'édition pour la jeunesse. J'ai effectivement donc, contribué avec Casterman à un peu reprendre ce corpus initial, les 60 albums. Et c'est donc à la suite de ce travail que j'avais fait sur les albums donc, classiques, disons, compte tenu du fait qu'il y avait encore une très grande demande, en fait, de nouveaux albums de Martine, et ben, on m'a proposé donc d'écrire ben d'abord ce premier album qui était Martine au Louvre. Pour ça, alors, je travaille avec des images existantes, puisqu'on ne peut pas faire de nouvelles images de Martine, mais évidemment, Marcel Marlier a illustré 60 albums. Par conséquent, il y a des ressources très, très abondantes dont je dispose et que je connais bien donc, pour avoir travaillé sur ces 60 albums antérieurs.
Et donc, toutes les images qui sont dans les albums dont vous êtes l'autrice, sont des images qui sont déjà parues dans la collection des Martine. Ce n'est pas des inédits, par exemple.
Voilà, c'est ça. Ce sont toutes des images qui sont déjà parues, mais voilà, avec lesquelles moi je travaille et que j'imagine en relation avec une nouvelle histoire. Et donc, je conçois les albums en faisant converger, en quelque sorte, une instance iconographique qui sont ces images-là, un texte que j'imagine et que je crée pour les enfants d'aujourd'hui, et donc des photos qui sont faites, qui sont des photos contemporaines que l'on fait pour ces albums-là, dans lesquelles on incruste les images de Martine.
D'accord, donc combinaison entre les dessins de Marcel Marlier et les photos, des photos j'imagine retravaillées, parce qu'il faut donner un grain, un lustre entre guillemets martinien, si vous me passez l'expression.
Elles sont un petit peu traitées, effectivement, voilà, de manière à ce que l'ensemble soit très harmonieux, et ça, pour moi, il y a quelque chose de magique lorsque je vois effectivement se matérialiser tout à coup ces images que j'ai en fait imaginées et qui fonctionnent effectivement avec le texte.
Et donc vous avez emmené Martine au Louvre, au château de Versailles en Bretagne et maintenant à Paris, donc c'est une touriste maintenant. Maintenant Martine, elle part à la découverte de la France. C'est la ligne directrice de cette collection Nouvelle Formule ?
Pas nécessairement la découverte de la France, mais elle part à la découverte toujours de nouvelles choses. En fait, elle est émue par ça, finalement, Martine, par sa curiosité et sa soif d'apprendre, et puis d'aller aussi un peu à la rencontre, tout simplement. Donc là, Martine à Paris, par exemple, c'est une découverte de Paris, mais je dirais à hauteur d'enfant. Donc c'est là aussi un rapport ludique à son environnement. Elle arrive à Paris, elle va séjourner chez son oncle et sa tante, et sa tante va avoir l'idée de lui faire découvrir Paris à travers un jeu de piste. Elle va lui dire, il y a des animaux cachés dans Paris, et en donnant à Martine et à son frère Jean des indices tous les jours, ils vont aller donc aux quatre coins de Paris finalement. Donc ces animaux cachés, ça va être des statues par exemple, ou bien un dodo qui est l'espèce disparue mais conservée, dont on a une représentation qui est conservée au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est comme ça effectivement qu'elle découvre cet environnement-là.
Et nous avons mis en onde le début de ce nouvel album Martine à Paris.
Enfin les vacances! Martine et Jean se réjouissent. Ils vont passer quelques jours chez leur tante Flo et leur oncle Max, à Paris. Flo vous emmènera au Muséum d'Histoire Naturelle où elle travaille, déclare la maman de Martine en arrivant sur l'avenue des Champs-Élysées, après plusieurs heures de route. On peut y voir des animaux et des espèces disparues. Des espèces disparues? S'étonne Martine. Oui, la plupart avaient tellement de prédateurs, dont l'humain, qu'elles ont fini par s'éteindre. Elles n'existent plus aujourd'hui. Pourvu que ça n'arrive jamais aux chiens, murmure Martine à Patapouf, qui, lui, n'a pas l'air de s'inquiéter. Bonjour, Flo ! S'écrient Martine et Jean en arrivant chez leur tante. Nous t'apportons des jonquilles du jardin. Oh, merci !
Je suis ravie de vous accueillir à Paris, s'exclame la jeune femme. Regardez comme c'est beau. J'ai d'ailleurs imaginé un moyen original pour vous faire visiter la capitale. Dès demain, vous partirez à la recherche de 7 animaux dispersés dans toute la ville. Si vous parvenez à les trouver, vous gagnerez une belle surprise. Martine et Jean sont surexcités. Ils n'ont qu'une hâte, commencer le jeu de piste.
Voilà, et avec cette entame, Rosaline et Logan Smith, on a bien la confirmation que les fondamentaux de la série sont bien là, en particulier donc la curiosité, l'enthousiasme, cette envie de découverte qui anime le personnage de Martine. En rédigeant votre texte, est-ce que vous avez en tête l'écriture de Gilbert Delahaye?
Oui,
ou pas du tout.
Bien sûr, oui, je l'ai en tête. Et encore une fois, je connais bien les textes de Gilbert Delahaye. Donc pour moi, c'est comment dire, une sorte de défi de pouvoir me placer à la fois dans les pas de Gilbert Delahaye, tout en proposant quelque chose qui vient de moi, disons ma propre créativité. Mais voilà, c'est comment dire, à la fois une posture, je dirais, de modestie, une responsabilité, puis aussi une grande joie de pouvoir créer quelque chose de nouveau.
Donc Gilbert Delahaye est décédé en 1997. Et à sa mort, c'est le fils de Marcel Marlier, Jean-Louis, qui a repris l'écriture des textes. Laurence Boudard, est-ce qu'il y a une évolution dans la façon dont les histoires sont passées aux enfants à ce moment-là?
Oui, il y a une évolution. Alors, on s'inscrit effectivement toujours dans la lignée, disons, de ce que Delahaye et Marlier avaient déjà créé. Et donc, avec les textes de Jean-Louis Marlier, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore plus de dynamisme. Les histoires deviennent de véritables intrigues, ce qui était une des choses qui était peut-être un peu plus discrète, disons, dans les albums précédents, ceux qui étaient écrits par Gilbert Delahaye. Il y avait effectivement beaucoup de curiosité, beaucoup de découvertes, mais il n'y avait pas vraiment d'intrigue, il n'y avait pas de petites difficultés, parce que chez Martine, il n'y a pas de gros problèmes, ni de grosses difficultés. C'est un monde relativement irénique, disons. Mais avec Jean-Louis Marlier, effectivement, il y a un peu plus, oui, des histoires où il y a des petits enjeux supplémentaires qui apparaissent. Et puis, on voit apparaître aussi quelque chose qui était absent jusque-là des histoires de Martine, c'est un passage vers l'imaginaire. Donc, on a des albums où il y a une plus grande fictionnalisation encore des aventures que Martine vit. Par exemple, elle va se retrouver dans un parc animalier avec des animaux qui ont l'air d'être... Enfin, il y a un doute, en fait. On ne sait pas s'ils sont vivants, si ce sont simplement des statues. Et donc, simplement, cette petite tension narrative-là, eh bien, elle change par rapport aux albums précédents.
Monde irénique, disait Laurence Boudard. Moi, j'avais presque envie de vous demander, Rosaline et Langlois Smith, si, pour vous, Martine était une héroïne aseptisée, parce qu'elle a une famille dans laquelle tout le monde s'aime. Elle a une maîtresse d'école qui est quand même gentille, elle a une jolie bande d'amis, elle a des compagnons à quatre pattes absolument adorables, hein, Patapouf et Moustache, le chat de la famille. Dans sa famille, sauf erreur de ma part, on ne divorce pas, on ne fume pas, on ne boit pas, elle ne souffre pas de maltraitance, il n'y a pas de harcèlement scolaire, la maîtresse, elle n'est jamais vacharde, elle n'est pas un peu aseptisée quand même, cette héroïne-là, Rosaline Engelsmith?
Alors, je ne dirais pas aseptisée. Martine, c'est un monde effectivement qui est très solaire, c'est un univers qui globalement est quand même rassurant et bienveillant, mais tout de même, en tout cas, je pense que dans les dialogues, par exemple, qu'on peut mettre en œuvre entre Martine et son frère, ben, il y a des petites disputes qui peuvent émerger. C'est ça aussi le monde de l'enfance. Parfois, c'est tout simplement situer au niveau de l'enfant des petits enjeux, des petites tensions, des petites difficultés. Ça, je pense que c'est présent dans le monde de Martine. Et c'est une petite fille qui a ses reliefs à elle, mais compte tenu de son âge et effectivement de l'univers dans lequel elle s'inscrit.
Bon, en tout cas, la question de l'apprentissage, elle est toujours très importante. En fait, mine de rien et sans forcément s'en rendre compte, les jeunes lecteurs ou les jeunes lectrices font l'apprentissage de la vie, des toutes petites choses, mais petit à petit, ça peut leur permettre de cheminer.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est une manière un peu originale, finalement, d'aborder la vie, d'aborder Paris, par exemple, dans cet ouvrage-là. Mon idée, c'était justement de ne pas faire un guide touristique pour enfants, mais non, en fait, vraiment, en se confrontant aux petites choses de la vie, de les apprendre, de les intérioriser, de se confronter, en fait, tout simplement, mais avec, en effet, une certaine douceur, et puis à travers le jeu.
Alors, le jeu, le sport aussi, hein, vous dites dans le livre Laurence Boudard qu'elle a la fibre sportive. C'est vrai qu'elle est tout le temps en mouvement. Hein, c'est assez frappant dans les dessins.
Ah oui, elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps en action. On peut même dire qu'elle a un peu la bougeotte comme ça.
Ouais,
elle a tout le temps envie de faire de nouvelles choses. Et effectivement, ça passe aussi par le corps et par une forme d'émancipation, je pense, du corps. Et là, si on resitue effectivement le personnage de Martine dans son contexte historique, à partir des années 60, 70, elle fait beaucoup de sport, elle fait beaucoup d'exercices physiques, et on peut aussi mettre ça en parallèle finalement avec une certaine, oui, émancipation de la femme, puisque bon, ça reste une petite fille, mais une femme en devenir, avec cette idée de prendre de l'assurance aussi dans sa forme corporelle.
Oui, alors vous me tendez la perche, Laurence Boudard. C'est vrai que le papa de Martine travaille, pas la maman. Dans Martine à la maison, elle fait comme les grands, mais elle se contente de faire le ménage. On pourrait se dire quand même, bon, les féministes existaient dans les années 50, dans les années 60, en Belgique ou en France. Elle n'est pas très féminine quand même. Très féministe, pardon, ce personnage.
Alors, elle, vous l'avez rappelé, sa maman ne travaille pas, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait des choses, par contre ? Donc, peut-être qu'on peut aussi se dire que c'est le germe de ce qui va venir. Donc, elle porte déjà, enfin, en tout cas, c'est la lecture que moi, j'en fais, elle porte déjà le germe, finalement, de cette émancipation qui va véritablement prendre tout son envol et tout son amplitude à partir de la fin des années 60, plutôt. Alors, effectivement, déjà, avant, il y a des mouvements féministes. Mais les femmes, la plupart des femmes ne travaillent pas, quand même, dans beaucoup de familles, à l'époque où Martine voit le jour. Et puis, vous rappeliez le fait qu'elle s'occupe du ménage, mais pas toute seule, il y a son frère. Et puis c'est elle qui dit à son frère ce qu'il faut faire. Donc il y a quand même un partage des tâches, une sorte de répartition de la charge mentale, dirait-on aujourd'hui, entre le frère et la sœur qui se distribue de manière assez équilibrée et équitable, je dirais.
Et ça, c'est un filon que vous pourriez creuser, justement, en tant qu'écrivaine des textes, Rosalind Langle-Smith, justement, la place de la femme qui a quand même énormément changé dans les sociétés européennes depuis 54.
Alors, pour parler de Martine, en tout cas, moi, ce qui est vrai, c'est que dans les textes que j'écris, elle n'est jamais en concurrence, je dirais, avec son frère, sur une modalité de la fille par rapport au garçon. Ils sont des parfaits, pères et contemporains, et ils font à peu près les mêmes choses. Ils dialoguent de manière très équitable. Ça, pour moi, c'est un acquis absolu dans les nouveaux albums.
Est-ce que c'est l'enfant idéal pour vous, Martine?
Peut-être l'enfant idéal, effectivement. C'est quand on écrit Martine, on a envie de perpétuer effectivement cette idée que c'est peut-être... Voilà,
une petite fille modèle, je crois que vous avez écrit justement une série sur cette thématique aussi.
C'est ça, voilà, tout à fait. Je connais bien les petites filles modèles. J'ai écrit une série qui s'appelle « Les nouvelles petites filles modèles ».
Merci, merci beaucoup à toutes les trois d'être venues fêter donc les 70 ans de Martine dans VMDN, Laurence Boudard, Rosalind Langle-Smith et Maud Van Coppenolle. Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône, et tous les albums sont parus, je le rappelle, chez Casterman. On lui souhaite évidemment un bon anniversaire qui se poursuit cette semaine à partir de demain à la foire du livre de Bruxelles. Vous y allez d'ailleurs,
oui.
Laurence Boudard, et puis à signaler aussi cette exposition à Paris, cette fois à la Galerie Gallimard. C'est jusqu'au 7 mai. Dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. Demain, on va changer complètement d'univers. On part au théâtre, à la Comédie Française avec la pièce de Shakespeare, Macbeth, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.